Le journal vous est présenté ce soir par Sophie Delpont. Bonsoir.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité, 6 détenus condamnés à 7 ans de prison en Égypte pour le meurtre d'un Français dans sa cellule.
Éric Lang était professeur de français battu à mort pendant sa détention au commissariat du Caire. Les précisions à suivre, notre correspondant sur place, François Humfer-Kataji. Dialogue très difficile au Proche-Orient, l'impartialité de la France mise en cause par le Premier ministre israélien. À Jérusalem, reportage d'Étienne Monin dans un instant. 5 ans après la naissance du mouvement des indignés, Nuit Debout tente de mobiliser dans le monde. Comment donner un nouvel élan? On entendra Alexis, un manifestant place de la République à Paris. Un 49-3 et après, Olivier Gesbert au Parti Socialiste aussi, la question est sur la table.
Faut-il en rester là? Le recours au 49-3 révélateur des blocages politiques actuels et des tensions qui accompagneront la majorité jusqu'aux prochaines élections. On en débat ce soir avec Loïc Blondiot, monsieur Participation, avec Nicolas Tenzer, monsieur Action Publique, avec Nicolas Rousselier, monsieur Gouvernance, et avec Anne Levade, une constitutionnaliste en prise avec la dure loi des partis, dans un quart d'heure autour de cette table.
Et y a-t-il un cap économique à gauche? Ce sera l'objet de la chronique économique de Philippe Frémaux à retrouver à la fin de ce journal. Juste avant, on ira faire un petit tour sur la Croisette à Cannes pour rejoindre Antoine Guillot pour la chronique du festival. 6 hommes condamnés ce soir en Égypte pour la mort d'un Français battu à mort dans sa cellule au commissariat du Caire. C'était en 2013. La victime, Éric Lang, enseignait le français quand il a été arrêté. Les 6 détenus condamnés écopent de 7 ans de prison. Au Caire, les précisions de François Humfer-Kataji.
L'intervention de François Hollande au mois d'avril dernier en Égypte a-t-elle permis d'accélérer la procédure? Moins d'un mois après que le président français a évoqué l'affaire avec son homologue, le verdict tombe. Or, depuis plus de 2 ans, l'affaire Éric Lang ne trouvait aucun dénouement judiciaire. Les audiences étaient toutes repoussées les unes après les autres pour des raisons anecdotiques la plupart du temps. 7 ans de prison pour 6 co-détenus accusés d'avoir battu à mort Éric Lang, un enseignant de 49 ans qui vivait en Égypte depuis 20 ans. En période de couvre-feu à la suite du coup d'état du maréchal Sissi, il avait été retenu illégalement dans un commissariat égyptien après son arrestation. Cette condamnation ne devrait pas satisfaire complètement la famille qui cherche surtout à connaître le rôle de la police. Comment un homme retenu dans un commissariat peut être battu à mort avec des barres de fer et des câbles électriques sans qu'aucun policier n'ait participé ou fermé les yeux? C'est la question que se posent les proches de l'enseignant. Le procès du ministère de l'Intérieur égyptien est difficilement imaginable. Les policiers en Égypte sont largement protégés par la hiérarchie. L'avocat de la famille d'Éric Lang a pourtant demandé une commission international pour que la police française enquête sur place, une demande restée lettre morte. La France et l'Égypte entretiennent des liens ténus et ont récemment signé plus de 7 milliards d'euros de contrats militaires.
François Humfer-Kataji, toujours en Égypte, au moins 152 personnes ont été condamnées à de la prison, entre 2 ans et 5 ans de détention, pour avoir participé fin avril à des manifestations contre le pouvoir en place. Au moins 11 morts, dont 2 policiers tués à Bagdad aujourd'hui. C'est une attaque contre une usine de gaz revendiquée par l'organisation État islamique. Le groupe djihadiste qui a aussi frappé au Yémen aujourd'hui. Un attentat suicide aurait fait 31 morts et 62 blessés parmi des recrues de la police dans une région du sud-est du pays. Région jusque-là chasse gardée d'Al-Qaïda. En Syrie, les violents combats entre factions islamistes rivales auraient fait plus de 300 morts au cours des 20 derniers jours à l'est de Damas, selon une ONG sur place. Pour tenter de relancer les efforts de paix au Proche-Orient, Jean-Marc Ayrault a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie française s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a mis en doute l'impartialité de Paris en raison du vote de la France à l'UNESCO. Sur place, notre correspondant Étienne Monin.
Dans sa présentation après ses entretiens, Jean-Marc Ayrault insiste principalement sur la nécessité de cette initiative de paix et sur la bonne foi de la France. Sa visite a été polluée par la participation de la France au vote d'une résolution il y a quelques semaines à l'UNESCO, jugée hostile par les Israéliens. Benjamin Netanyahou s'en est servi pour questionner l'impartialité de la France autour de l'initiative de paix, d'où la réponse de Jean-Marc Ayrault.
La France n'est pas isolée. En tout cas, elle fait preuve de désintéressement. Il ne peut pas y avoir de doute sur la sincérité de la France.
Pour le ministre français, la situation de blocage dans la région est maintenant dangereuse. Il considère même que cela peut faire le lit de l'État islamique et que le cadre d'un dialogue direct défendu par les Israéliens pour rejeter la conférence internationale n'a débouché sur rien.
Quand on constate un blocage, il ne suffit pas de formule. On peut toujours dire qu'on est prêt au dialogue, mais s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un blocage. eh bien, il faut débloquer cette situation.
Reste maintenant à savoir si le secrétaire d'État américain en personne participera à la conférence. C'est un point crucial pour l'impact de l'initiative. Les Français sont prêts à décaler légèrement les dates pour faire concorder les agendas.
Étienne Modin, le correspondant de France Culture à Jérusalem. Le chef de la diplomatie américaine est lui en Arabie Saoudite aujourd'hui. John Kerry a évoqué avec le roi Salman la situation en Syrie, en Libye et au Yémen à propos de la lutte antiterroriste avant la réunion internationale sur la Syrie prévue mardi à Vienne. Déclaration provocatrice de l'ancien maire de Londres et chef de file du camp pro-Brexit. Boris Johnson compare l'Union européenne au projet d'Hitler de créer un État englobant tout le continent européen. Il fait aussi référence à Napoléon, précisant que les méthodes ne sont pas les mêmes. La Grande-Bretagne doit voter par référendum sur la sortie ou non de l'UE dans moins de 6 semaines. Google serait menacé d'une amende record d'environ 3 milliards d'euros, amende qui serait infligée par les autorités européennes de la concurrence. Une information du Sunday Telegraph. Aujourd'hui, selon le journal, l'Union européenne reproche aux géants d'Internet de tromper les consommateurs et ses concurrents en manipulant les résultats de son moteur de recherche pour qu'il favorise ses propres services. Une affaire en cours depuis 2010. Nuit debout appelle à se mobiliser partout en Europe et dans le monde aujourd'hui. Ce 15 mai, c'est l'anniversaire de la naissance du mouvement des indignés espagnols. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Place de la République à Paris, ils étaient déjà nombreux à se rassembler cet après-midi au son du Boléro de Ravel, joué par l'Orchestre Debout. Alexis fait partie de l'organisation. Pour lui, c'est l'occasion de donner un nouveau souffle au mouvement.
Il y a plein d'événements qui ont eu lieu pendant les 5 dernières années et souvent différés dans le temps. Taksim, les indignés, Occupy Wall Street. Et souvent on pourrait en dire comme s'ils étaient un peu isolés les uns des autres alors qu'ils viennent quand même d'une même désenchantement, indignation, etc. D'une même source finalement tous ces événements. Et du coup on voulait visibiliser de façon simultanée un peu toute cette énergie en prenant les plages, l'espace public pendant la même journée quoi. Il va y avoir quand même des connexions directes via téléphone avec justement des places d'ailleurs, de Berlin, de Milan, de Madrid, de Paris, dans lesquelles ils vont nous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas la journée, comment ils prévoient peut-être de continuer l'élan ou pas. Dublin, je pense qu'aujourd'hui c'est par exemple la première fois qu'ils se réunissent. Dans d'autres villes, ils sont déjà réunis, après peut-être pas avec la régularité de tous les jours. Reprendre la place parce que c'est quand même un des endroits qui a le plus de force en ce moment, c'est Paris. Global Debout, je pense qu'évidemment il y avait peut-être un peu de méconnaissance et c'est maintenant que tout le monde commence à prendre conscience de cette tentative d'internationalisation de l'initiative, quoi.
Alexis répondait à Camille Marigot. L'impunité, c'est terminé face au sexisme. Voilà le message lancé par 17 anciennes ministres, de gauche comme de droite. Elles signent une tribune publiée dans le journal du dimanche. Roselyne Bachelot, Aurélie Filippetti, Elisabeth Guigou ou encore Ramayad font partie des signataires. C'était un grand spécialiste du système solaire. L'astrophysicien André Braik est mort aujourd'hui à Paris. Philippe Anné-Rejos est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Il gardera l'image d'un chercheur brillant et d'un homme qui aimait partager sa passion.
Bien sûr, c'est un découvreur en astronomie puisqu'il est à l'origine de la découverte des anneaux de Neptune. Mais il est aussi un ardent défenseur de l'amour de la connaissance. Et il disait « prenez du recul, faites de l'astronomie ». C'était un de ses mots d'ordre en quelque sorte. Il aimait diffuser les connaissances et il aimait faire aimer la découverte et la connaissance. Il était un grand vulgarisateur, il savait transmettre sa passion. Vraiment, c'est une grande perte pour la recherche, bien sûr, mais aussi pour l'appel vers les sciences et pour la curiosité envers le monde qui nous entoure vis-à-vis du grand public.
André Braik avait 73 ans. Dans le scandale de dopage, le ministre russe des Sports présente ses excuses dans une tribune publiée dans le Sunday Times. Il demande que les athlètes suspendus puissent participer aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Direction Cannes maintenant, on retrouve notre envoyé spécial au festival. Antoine Guillot, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Des réalisatrices à l'honneur pour cette 5e journée de compétition. Nicole Garcia pour Mal de Pierre et la Britannique Andrea Arnold pour son film American Honey. Et vous n'avez pas été conquis Antoine.
Oui, il faut dire que la place des femmes en compétition à Cannes, c'est un débat récurrent. Généralement, il y en a une, deux, voire aucune, comme en 2012. Année faste que 2016, puisqu'elles sont 3, sans doute pour mettre cet exploit en avant. Le festival les a donc toutes regroupées ce week-end. Mais la très faible qualité des deux films d'aujourd'hui laisse pantois. Nicole Garcia a adapté l'excellent roman de la tsar de Milena Agus, Mal de Pierre, mais elle en tire un apologue vieillot du désir féminin dans la France corsetée des années 50, pas du tout au niveau d'une compétition. compétition cannoise. L'anglaise Andrea Arnold, deux fois prix du jury à Cannes pour Red Road et Fish Tank, fait elle dans le road movie américain en suivant une bande de jeunes déclassés qui écument le Midwest à bord d'un minibus pour vendre d'improbables abonnements à des magazines. Encore un film très long, 2h40, qu'on sent douloureusement passer, tant Andrea Arnold ne fait rien de cette histoire répétitive et maladroitement filmée. De bonnes réalisatrices, évidemment qu'il y en a, et beaucoup, encore faut-il les sélectionner. C'est donc du côté des sélections parallèles et de deux films pour enfants, chaudement recommandés aux adultes, qu'on aura trouvé notre bonheur. Deux films d'animation, cruels et sombres, mais qui rendent heureux, tant ils sont réussis. La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, somptueuse adaptation d'un conte méconnu des frères Grimm, peint d'un pinceau sensuel et suggestif, et le bouleversant et hilarant Ma vie de courgette de Claude Barras en marionnette animée image par image, ou comment découvrir à 10 ans le bonheur dans un foyer pour enfants perdus. Le scénario est signé Céline Sciamma. Tiens, en voilà une excellente cinéaste qui n'a jamais été en compétition à Cannes.
Merci Antoine Guillot, on vous retrouve dès demain matin pour le portrait du jour et à 18h pour une autre chronique du festival. 18h11 sur France Culture, l'heure de la chronique économique avec Philippe Frémaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives Économiques. On s'intéresse ce soir à la rupture consommée au cœur de la majorité. Au-delà des conséquences politiques qui seront débattues après ce journal par les invités d'Olivia Gesbert, que peut-on en penser sur le plan économique aujourd'hui à gauche?
Oui, alors, il faut se placer en longue période. Si bientôt, depuis, ça fait 100 ans, c'était le congrès de Tours, en 1920, la gauche est divisée sur le plan économique comme sur le plan politique, avec d'une part une fraction réformiste et une fraction radicale. Fraction radicale nous a longtemps promis le paradis sur terre après avec la Révolution, et puis fraction réformiste pour sa part a choisi de mobiliser la puissance électorale et syndicale croissante du monde salarié pour obtenir un plus juste partage des fruits de la croissance, que ce soit sous la forme de pouvoir d'achat, de réduction du temps de travail ou d'extension de la protection sociale. Alors, ça l'a pas empêché de conserver comme horizon la promesse d'une rupture avec le capitalisme, mais voilà. Alors, ce modèle, il est désormais complètement derrière nous. D'une part, la fin du communisme et la mondialisation on fait de l'économie de marché notre seul horizon, en tout cas pour le moment. Et puis, avec le ralentissement de la croissance, la montée des enjeux environnementaux, il n'y a plus guère de grain à moudre, pour reprendre la formule d'André Bergeron, qui fut jadis le dirigeant du syndicat Force Ouvrière.
Bref, aussi bien la gauche de la gauche que la gauche réformiste ne savent plus où elles vont.
Exactement, c'est ça. On accuse François Hollande, souvent à raison d'ailleurs, de ne pas avoir vraiment de cap, mais il est assez représentatif des difficultés de son camp et de l'ensemble du camp, je veux dire. La gauche de la gauche a tendance à se crisper dans une posture finalement assez conservatrice de défense des acquis sociaux de la période antérieure, mais elle échoue aujourd'hui à incarner l'espoir face à la promesse de retour à un monde d'hier évidemment fantasmé que porte le Front National. Quant à la gauche de gouvernement, elle gère soit le court terme, soit au fond elle se limite dans ses ambitions à adapter le pays aux évolutions du monde. C'est ainsi, par exemple, que dans la nouvelle langue des élites, maintenant, le mot réforme, qui a été longtemps synonyme de progrès, d'espoir, est désormais associé plutôt à des mesures impopulaires. Et puis, quand on parle de sécuriser les licenciements, maintenant, ça ne veut pas dire protéger les salariés, ça veut dire plutôt protéger les employeurs du risque d'être condamnés au cas où ils n'ont pas respecté la loi. Alors, désormais, on a une gauche qui nous gouverne, qui semble avoir pour principal argument pour nous faire voter en sa faveur. Avec la droite, ça serait pire.
Reste que les contraintes sont bien là et la nécessité de s'adapter aussi, Philippe.
Absolument, c'est pourquoi notre jeune ministre de l'économie estime que gauche moderniste et droite éclairée pourraient faire un bout de chemin ensemble. Après tout, est-ce qu'on peut pas s'entendre sur le fait que l'avenir du pays, en termes de compétitivité comme de bien-être, suppose de faciliter la vie des entrepreneurs, soutenir innovation et recherche, mais aussi investir dans la petite enfance, de lutter plus efficacement contre l'échec scolaire, transformer le système de soins pour assurer un meilleur accès à tous, et s'engager enfin, pour de vrai, dans la transition énergétique. À ceci près que les leaders de la droite, en ce moment, ils sont plutôt engagés dans une surenchère libérale. Leur priorité, c'est de baisser massivement les impôts et de supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Bref, la droite préfère plutôt satisfaire ses clientèles que servir l'intérêt du pays.
Difficile pour la gauche de susciter l'espoir et même l'enthousiasme quand elle se montre seulement comme une gestionnaire éclairée, soucieuse de l'intérêt général.
Oui, surtout si son programme se résume à promettre le plein emploi, d'un retour à une croissance forte et durable, ce à quoi plus personne ne croit. La gauche doit aujourd'hui absolument changer de logiciel. Son succès passé, finalement, ça a été d'assurer la pérennité du capitalisme et son expansion contre les capitalistes eux-mêmes en leur imposant une redistribution solution qu'il refusait. Alors désormais, on est rentré dans un monde ouvert où la croissance s'évanouit et où effectivement le climat se dérègle. Donc la tâche historique de la gauche aujourd'hui, désormais, c'est de porter une nouvelle vision du progrès qui associerait compétitivité, soutenabilité et bien-être pour tous.
Merci Philippe Frémaux. Je rappelle que vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives économiques. Le temps pour demain, soleil généreux presque partout dès le matin. C'est couvert en revanche sur le quart nord-ouest. Quelques averses aussi attendues sur l'île de France et le quart nord-est. Même tendance l'après-midi. Les températures restent fraîches, 5 à 15 degrés le matin. Et l'après-midi, on montera jusqu'à 20 degrés au bord de la Méditerranée.